Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette table ronde. Et voilà, Fred Duval arrive, mais alors pile poil au bon moment. Table ronde où on va parler du cyberpunk tous ensemble avec cette question. Quel impact le courant cyberpunk a-t-il eu sur la réalité des réseaux sociaux ? Donc, sociaux. Enfin, des réseaux. Enfin, on va pouvoir en fait s'interroger sur toutes les dimensions du cyberpunk et sur ce que ça veut dire en fait aujourd'hui. Autour de cette table, quatre spécialistes. Fred Duval, qui est scénariste, notamment Carmen McCallum, Travis, de nombreuses bandes dessinées. Voilà. Juste à ses côtés, Ariel Kirou, donc du site culturemobile.net, grand dickien, avec un documentaire en ce moment. Hein ? Qui passe ce soir 21h15 et qu'il faut vraiment aller voir. À ses côtés, Nicolas Nova, pardon, cofondateur d'une agence de prospection et d'innovation à qui on doit Futur au pluriel chez Les Moutons Électriques, qui est enseignant. Et puis le dernier, Daniel Tron, qui est anthologiste, traducteur, essayiste, spécialiste du cinéma, enseignant aussi. Et notamment, tu as dirigé Aya Humour et Esprit de la Commune. Donc,
je vais co-diriger.
T'as co-dirigé, mais on peut-être en discuter. Je voudrais commencer par une question ouverte. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous amuser. Vivons-nous dans un monde cyberpunk ?
Qui commence ?
Voilà, qui veut commencer ?
Merci,
Daniel,
pour cette question. Vivons-nous dans un monde cyberpunk ? Oui et non. Oui et non. On en parlait tout à l'heure à propos de Dick, donc pour faire très rapidement l'historique du cyberpunk, c'est un courant qui naît en fait, qui se cristallise autour d'une œuvre, celle de William Gibson et du romancien, notamment dans laquelle il, au niveau conceptuel, il invente le cyberespace, il invente le terme. Et de l'autre côté, Blade Runner, qui va visuellement cristalliser cette vision rétro-future et paradoxale d'un avenir dans un contexte punk où il n'y a pas d'avenir et où justement on va avoir une vision assez sombre de la chose. Et les grands éléments du cyberpunk, en tout cas des mondes cyberpunk, se sont réalisés, ça on peut le dire en partie. Il y avait notamment une vision très très claire qui était la perte du pouvoir de l'État et de la démocratie au profit d'un pouvoir économique supranational qui permet de s'affranchir en fait de la morale historique des États et qui prend réellement le contrôle. Avec cela, dans le cyberpunk, autre motif, l'artificialisation du vivant, avec évidemment les prothèses, etc. Alors ça, on peut être très très déçu au niveau des progrès, il a fallu du temps, mais on y est quand même en principal. Donc, il est de bon ton chez tous les fans de Dick de remarquer la dickianisation progressive de l'univers. Donc il y a effectivement dans la réalisation du cyberespace, dans l'importance qu'elle a pris, etc., on pourrait y voir une réalisation d'une prédiction du cyberpunk, ce à quoi je dirais, en tant qu'analyste de SF, absolument pas, parce que ce n'est pas une prédiction de Gibson, parce que Gibson n'en imagine absolument pas la forme, et surtout, ce qu'il postule est extrêmement différent de ce qui se passe, et en même temps, tout à fait, puisque nous vivons à l'ère de création de cet espace communautaire dans lequel nous ne sommes que des êtres désincarnés, que nous avons une liberté relative, plastique, de transformer notre apparence et nos réseaux sociaux. À ce niveau-là, oui. L'évolution économique du monde, oui, c'est réalisé, mais là, c'était relativement évident parce que c'était simplement une observation des tendances qui étaient déjà très, très fortes aux États-Unis et déjà qui balbutiaient qu'allait arriver au pouvoir en Angleterre. Donc, en ce sens-là, j'espère avoir fait une introduction sur la relativité du caractère cyberpunk de notre monde.
Voilà, on est déjà dans le vif du sujet. Ariel.
Oui, j'abonde évidemment dans le sens de Daniel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cyberpunk, il y avait la logique du cyber, c'est-à-dire de ces nouvelles technologies et du punk. Hein, et que c'était une façon de dire, voilà, il y avait à la fois quelque chose de l'ordre du constat et de la perspective. C'est-à-dire il faut s'emparer des technologies, il faut s'en emparer comme des punks quelque part. Il faut se l'approprier, parce qu'évidemment, sinon, c'est les multinationales qui vont faire de nous des jouets. Donc, évidemment, d'un point de vue rationnel, jamais aucun livre de science-fiction ne prévoira l'avenir, c'est une évidence. Donc, le monde n'est pas cyberpunk, mais de l'autre, jamais il l'a été autant, et jamais il n'a été aussi indispensable de s'emparer, de s'approprier les technologies, hein, que ce soit des hackers, que ce soit le commun des mortels. Je veux dire, lorsqu'on voit le monde des big data, avec cette logique de numérisation intégrale du monde et la façon dont la réponse immédiate attendue, l'orientation économique, hein, on va nous conseiller tel ou tel produit, commence à fonctionner, on voit bien qu'on va vers un système qui va nous faire perdre tout recul et toute volonté de s'approprier les technologies. Donc je dirais, non, on n'est pas dans un monde cyberpunk, on y avance et nous, à la limite, nous devons y avancer. Car nous devons absolument nous emparer de ces technologies et transformer ce monde en un monde cyberpunk d'une certaine manière, même si on n'en est pas encore tout à fait aux implants cérébraux et aux verres de cristal. On a déjà les Google Glass, mais bon, ça ne marche pas encore génialement bien. Et puis ils l'ont plus ou moins mis de côté en attendant qu'elles reviennent.
Nicolas.
De mon point de vue, je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais on est quand même dans un monde cyberpunk parce que tous les travaux, toutes les œuvres, toute la production littéraire, filmique, même dans le monde du jeu de rôle, etc., tout ça nous a accompagnés et nous accompagne toujours et nous fournit tout un ensemble de métaphores qui ont été prises d'ailleurs très très au sérieux dans des laboratoires de recherche privés, publics, avec des gens qui ont voulu faire advenir ces choses-là. Donc, de ce point de vue, peut-être pas du point de vue de l'implant qui est présent, moi j'ai pas d'implant sur moi actuellement, mais on n'a pas encore tellement ce genre de choses, mais les métaphores, les représentations sont vraiment là, elles sont vraiment présentes à tel point que parfois elles sont même tellement fortes qu'on a du mal à faire travailler des ingénieurs, des designers sur d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, c'est cette espèce de d'univers possible qui essaie de d'avancer et d'être advenu. On a du mal à s'en détacher. Et de ce point de vue-là, c'est clair qu'on vit dans un océan de représentations cyberpunk, même si certaines personnes ont même un peu oublié que ça a pu être véhiculé par des auteurs comme Gibson, Sterling, etc., etc.
Fred Duval.
Moi, je préciserais une chose par rapport à la définition du punk, en fait, qui était, quand on le remet dans le contexte de la fin des années 70, début 80, c'est aussi le do-it-yourself, c'est-à-dire qu'il y a aussi une reprise en main des choses qui, à l'époque, s'est faite dans la musique, dans le roman, peut-être, dans le mouvement cyberpunk, mais aujourd'hui, on le voit apparaître, puisqu'il est possible de faire un film chez soi, de faire une maquette, un disque chez soi. Ça, il y a ce côté-là qui est quand même une prévision assez intéressante et qui n'est pas forcément associée à nos futurs, justement. C'est vraiment... N'oublions pas que le punk, ce n'est pas que le nos futurs, c'est une façon de dire ras-le-bol des grosses machines, justement, et on va faire ça à la maison, on va faire des maquettes, on va recréer, on va s'approprier l'art et le recréer d'une manière en se donnant des moyens tout simples. Donc c'est un retour aussi à une certaine simplicité, le punk, en tout cas dans la musique. Et aujourd'hui, on peut peut-être le constater dans l'art, dans une façon de pouvoir gérer le réseau social là-dessus est vachement intéressant parce que il permet aussi d'accéder à ce qui est toujours le nerf de la guerre dans l'art, c'est la diffusion. Donc là, il y a un tas de réflexions à avoir là-dessus. Sur les formes, effectivement, non, on aura... je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la forme n'a pas du tout été prévue par les écrivains, mais c'est bien normal, on n'est pas là pour ça. Les écrivains des Gibson parlaient des années 80, et nous, on est dans 2015, là, donc on est dans autre chose.
Sur l'aspect rébellion, est-ce que vous avez l'impression qu'on y est, cette espèce d'opposition aux multinationales au pouvoir qui se met en place?
C'est certainement beaucoup plus compliqué. C'est forcément plus compliqué dans la réalité que dans un récit aussi complexe soit-il. Il y a un énorme paradoxe actuel. Pour rester sur les thèmes, pour pas trop m'éloigner des réseaux sociaux, je vais prendre Google. Prenons cette chose qui est Google, qui est assez intéressante. On a vécu dans le XXe siècle avec une peur qui était encore le cas dans les années 70-80 du grand bloc, du gouvernement, de l'énorme groupe, de l'ennemi identifiable centralisé. De la même manière, quand le début de l'informatique se développe, on a peur du méchant Microsoft qui est en train de tout manger, etc. On l'imagine être là. Quand on écrit de la SF, on voulait en mettre des vrais noms, on imagine Microsoft encore plus énorme en 2080. Et il se trouve qu'au moment où le net arrive, Microsoft rate le coche. En bonne partie, ils ne sont pas devenus une petite boîte en or, mais il y a l'autre géant qui arrive et qui est Google. Et c'est extrêmement intéressant, Google. Google a un ethos qui ressemble par moments à une ethos hippie, à une ethos de réalisation de la noosphère. Nous voulons numériser tous les livres. Nous voulons que tout le savoir soit accessible gratuitement pour tout le monde. Et ils ont maintenu une espèce de mystère pendant quelques années qui était l'efficacité de Google. N'oublions pas que Google ne s'est pas imposé aux gens d'une manière très 20e siècle. Ça a posé parce que... il y en a plein qui doivent être le connaître comme moi. Il y a une époque avant Google où quand on voulait faire une recherche sur Internet, on avait ou des moteurs ou des programmes de métamoteurs. Moi, mes recherches à l'époque, je prenais un programme relativement lourd, un peu buggé, qui s'appelait Copernic, je me rappelle bien, qui m'envoyait 18 moteurs de recherche et qui faisait le tri entre ça. Et un jour, Google arrive, je rentre mon mot et d'un coup, c'est mieux. Et ils ont maintenu une espèce de mystère pendant quelques années, qui était le mystère du génie dans la boîte, qui était « nous, on a un algorithme qui est mieux que les autres, on va pas vous le donner ». Qu'est-ce qu'on découvre quelques années plus tard ? Pas du tout. Google a investi beaucoup plus de milliards que les autres et a des serveurs et des hangars de serveurs de données. Il faudrait un ticket d'entrée de 20 à 30 milliards juste d'investissement matériel, et encore mes chiffres en quelques années, ça doit être pire maintenant, pour ne serait-ce qu'avoir la puissance de calcul qui permet à Google de l'être. Et donc on est sur des entités qui peuvent à la fois représenter une libération ou un pouvoir supplémentaire distribué d'accès à la connaissance, mais qui continuent de reposer, mais de manière indirecte, on n'a pas forcément conscience, sur une puissance industrielle qui représente exactement ces mêmes grands groupes dont on pourrait se méfier.
Oui. D'ailleurs, dans les mailles du réseau de Bruce Sterling, qui est un livre, je crois, de 86 ou 87, en fait, donc, il met en scène ce qu'il appelle la démocratie électronique, c'est-à-dire des grandes multinationales qui ont remplacé nos démocraties et qui exercent elles-mêmes leur pouvoir à l'interne comme à l'externe selon des règles qui se veulent démocratiques. C'est exactement Google. C'est-à-dire que Google a comme règle « don't be evil », je ne fais pas le mal, en fait, hein, donc faites le bien, et comme autre règle, d'être le relais de toute l'information du monde, voire de l'univers. Bon, et c'est exactement la même chose. Et quand on s'intéresse aux deux fondateurs de Google, on s'aperçoit qu'ils ont été nourris, totalement nourris de cyberpunk. Le Nexus, par exemple, hein, le Nexus 6, le Nexus 5, le Nexus 6, c'est les réplicants de Blade Runner. Et le Nexus, c'est le nom des mobiles créés avec l'OS Android, donc de Google. Et ces gens assument plus ou moins, ils l'ont moins assumé lorsque les héritiers de Dick l'ont attaqué en procès, mais assument cette référence, on va dire, à la science-fiction, au cyberpunk, de façon assez claire. Et c'est logique. Lorsque l'on voit l'identité même de ce que décrivait Bruce Sterling ou William Gibson, mais surtout Bruce Sterling en l'occurrence, et ce que réalise très concrètement Google avec leurs fantasmes, qui sont des fantasmes de cyberpunk. Moi, j'ai lu une interview d'un ingénieur, d'une femme ingénieure de chez Google, qui expliquait, on lui demandait, mais bon, ok, il y a les Google Glass, vous porteriez des lentilles, etc., pour être connecté en permanence, ou même un implant, mais elle disait, mais oui, je le souhaite, je veux être connecté en permanence, à 100%, toujours, je veux mon implant. Et des équipes de chez Google ont travaillé un petit peu dessus, ont travaillé en tout cas sur les lentilles aussi, pas simplement sur les Google Glass, et le fantasme de cet ingénieur de chez Google était l'exact fantasme du cyberpunk, très paradoxalement.
Oui, la virtualisation permanente du monde. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on n'en est pas loin ?
Oui, on y est. C'est même assez terrifiant. À côté, là, tout à l'heure, il y a une démonstration de NAO. Et quand on pense intelligence artificielle, on a tendance à penser justement test de Turing, la capacité pour une machine à se faire passer pour un humain, à avoir cette liberté. Il se trouve que j'ai des étudiants avec qui je travaille par ailleurs qui font des stages en intelligence artificielle. Énormément de la recherche en intelligence artificielle se niche dans des endroits que vous voyez pas du tout, notamment quand vous faites des recherches sur Internet et que vous tapez du texte. Et énormément de recherches en IA et sur la manière dont la boîte de dialogue va prévoir le texte que vous allez mettre, et dont ensuite le mécanisme derrière un logiciel va prévoir ce que vous allez faire comme recherche derrière à partir des recherches et des tentatives de recherche que vous avez faites, c'est-à-dire que même les choses que vous ratez, si vous les laissez suffisamment longtemps, elles sont aussi enregistrées par le logiciel. Et donc on a en ce moment une armée de gens qui travaillent en intelligence artificielle pour prévoir avant nous ce qu'on va vouloir, et évidemment dans un outil commercial. On parle du big data. Chose extrêmement intéressante à faire, si vous le faites, je veux dire, j'aimerais bien d'ailleurs, j'ai le droit de faire un petit sondage, combien de gens ici dans l'assistance ont routé leur téléphone portable et ont installé un pare-feu ? Statistiquement, voilà, merci. Déjà, c'est énorme par rapport à une population normale. Quand on ne fait pas ça et qu'on n'a pas un logiciel de scanner sur les applications, on se rend compte qu'une application hyper anodine qu'on télécharge comme moi une histoire pour son enfant de 3 ans a accès à mes contacts, mon historique, mes favoris. Et c'est la valable pour la plupart des choses. C'est-à-dire que nous semons des données qui nous sont arrachées d'une manière générale, et le but à terme, c'est effectivement d'être capable de prédire, de savoir où je suis, avec qui je suis, si je suis prêt à acheter, quoi, et donc de vendre à des maillages de boutiques la possibilité de m'envoyer un message personnalisé quand je suis moi à 150 mètres de telle boutique ou quand je suis particulièrement avec des amis qui eux-mêmes ont été hameçonnés d'une manière générale. Donc actuellement, il y a effectivement derrière, quand on parle de grosse machine qui fait peur contre laquelle il est urgent de se réapproprier les objets, et là-dessus, il y a toujours le malentendu d'Apple hein, qui est censé nous libérer en nous enchaînant comme jamais personne ne nous a enchaînés, plus, beaucoup plus que les autres. Oui, on y est, mais cette menace dans le cyberpunk, elle est visible. Elle a la pyramide de Tyrell, elle a des implants dans ses... Et nous, non seulement elle est invisible, mais en plus, c'est nous-mêmes qui acceptons de nous dissoudre dans des réseaux sociaux. Et la plupart des données que nous donnons, en fait, les plus précises, les plus croisées, c'est celles que nous fournissons gratuitement. Et il est parfois intéressant de se dire que des gens donc, se constituent en tant qu'individus ou autres, imaginent partager avec leurs amis sans un seul moment se poser la question d'où sont les données, qui passent toutes, en gros, par les mêmes serveurs, qui finissent en Californie et qui passent par des boîtes de serveurs qu'on verra jamais, qui analysent les flux et qui les envoient en permanence.
Nicolas.
Je suis d'accord avec cette dimension-là. Il y a une autre dimension qui était présente dans la littérature cyberpunk qu'on met un peu de côté parce qu'elle paraît très évidente, c'est l'omniprésence des écrans. À l'époque où Sterling, Gibson, les autres écrivaient, ce qu'on utilisait comme machine à l'époque, c'était principalement l'ordinateur et un peu la télévision. Aujourd'hui, une profusion d'écrans qui vont du smartphone à la tablette en passant par des consoles, par des écrans publicitaires, etc. etc. Et c'est évidemment pas décrit de cette manière-là dans les romans cyberpunk, dans le travail de tous ces gens-là, mais c'était présent sur une présence du visuel, des formes de représentation, la trois dimensions, des univers virtuels. Alors ça se produit pas exactement de la même manière, même si dans une certaine mesure Oculus Rift et ces choses-là sont aussi proches de ces éléments, mais cette importance du canal visuel et cette profusion d'écrans est assez proche finalement de dans les représentations de ce qu'on avait pu avoir là. Et ça, il me semble qu'on en parle moins, mais c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et qui est aussi un peu de l'ordre de la terreur par moment, comme si on n'avait pas d'autre sens en tant qu'individu. Le simple fait de parler de réalité augmentée et de voir que l'augmentation de la réalité passe juste par le visuel, c'est quand même quelque chose d'assez limitant. Et je le relis un peu à cet ordre-là, comme s'il y avait un ensemble de représentations qui vient en partie du cyberpunk, mais aussi d'autres champs qui étaient là, prégnants, et qui nous empêchent d'imaginer des alternatives.
Duval.
Oui, je suis assez d'accord, même complètement. Je trouve qu'il y a même une dimension sociologique super intéressante à analyser, puisque plus on est virtualisé, moins on s'engage en tant qu'être humain dans les choses. Ça c'est-à-dire le syndicalisme est en perte de vitesse, on a l'impression même que le syndicat, ça sert à rien. Et donc les relations se font comme si le clic sur le réseau était une action militante, alors qu'un clic sur un réseau, ça n'est jamais une action militante, c'est juste donner des données.
Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que les deux sont liés?
Je ne sais pas, moi je m'interroge toujours. Quand je fais des bouquins, je m'interroge, je réfléchis. Et c'est vrai que pour moi, les problématiques naissent aussi avec le présent. Et quand on a réfléchi, quand les cyberpunks réfléchissaient il y a 30 ans, est-ce qu'ils étaient dans cette déshumanisation, dans cette forme de déshumanisation? J'en sais rien. On était quand même dans le romanesque. Donc aujourd'hui, on voit quand même concrètement un désengagement, une simplification aussi des débats. Moi, pour moi, le Twitter, c'est l'horreur, quoi. C'est-à-dire que c'est la négation de toute possibilité de réfléchir à quelque chose de complexe, puisque c'est combien 140 signes. Donc ça, Google, Twitter est super intéressant pour ça, puisqu'on est là pour parler des réseaux sociaux. C'est la simplification, c'est on donne la parole aux simplificateurs, en fait. Donc ça on a intérêt à... C'est pas de la science-fiction, on en parle aujourd'hui, et pour moi, on est dans quelque chose d'encore plus dystopique, je ne sais pas si ça se dit, que le cyberpunk, que ce que le cyberpunk pouvait nous proposer.
Ma question, c'est... Enfin, je vais vous laisser la parole. Hein. En fait, c'est de savoir un peu quel est le coupable. En gros, est-ce que... Non, mais enfin, très, très clairement, Twitter, évidemment, c'est 140 signes, hein, on est d'accord. Et on a tous l'expérience de discussion avec des gens qui sont des conversations de Twitter, en fait, avec 140 signes, puis on passe à un autre sujet. Mais est-ce la faute de Twitter ou est-ce le miroir quelque part d'une société où, par exemple, en journalisme, on va analyser des petites phrases ou des extraits ou le phénomène de citation parente. En fait, voilà, ma question, c'est est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui sont le miroir, finalement, de notre monde, de notre société, ou est-ce que c'est la conséquence, et on rejoint un petit peu notre thématique sur, en fait, qui influence qui.
Bon, je vais laisser compléter, mais Twitter, en tout cas, personne n'est obligé d'y être. Personne. Donc, pour moi, le débat, il est là, la réflexion, elle est là. C'est, est-ce qu'on est obligé d'être dans un réseau social pour exister aujourd'hui? Et je crains que oui, malheureusement. En tout cas, moi, je suis plutôt père de famille, quoi, dans la vie, et je vois qu'un enfant de 15 ans, aujourd'hui, s'il n'est dans aucun réseau social, il n'a pas d'existence quasiment physique. Ça, c'est intéressant quand même. C'est cette existence à travers le réseau, malgré le fait qu'on voit les gens tous les jours physiquement.
Il y a un paradoxe dans le cyberpunk. Bon, le roman connu comme étant celui qui a le plus influencé les logiques de réalité virtuelle, c'est le Samouraï virtuel, hein, donc Snow Crash de Neil Stephenson, qui était, je crois, fin années 80, un truc comme ça. Et dans ce bouquin, à aucun moment cet isolement est mis en scène. C'est-à-dire, on est vraiment dans une sorte de fantasme assez extraordinaire autour du langage. Hein, ça tourne beaucoup autour de tout ça. C'est un roman assez complexe, mais qui effectivement, hein, avec son métavers, c'est-à-dire, il y a vraiment cet univers virtuel dans lequel chacun peut vivre de façon quasiment aussi forte, voire plus forte en fait, que dans l'univers réel. Et les deux sont traités en permanence, sans qu'il y ait de jugement moral en fait sur le rapport de l'un à l'autre et l'un qui serait supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. Le paradoxe du cyberpunk, c'est que ce côté d'isolement est peut-être plus fort chez William Gibson en fait, hein, que chez Bruce Sterling ou que chez Neil Stephenson, mais il est la conséquence de la dureté du réel en quelque sorte. On retrouve la dureté du réel dans le rapport en fait au réseau social. Bon, c'est pour ça que même si on peut critiquer, même si effectivement je suis pas forcément un fanatique des 140 signes, tout le monde toujours arrive à s'approprier, à détourner ce type d'objet. Je veux dire, il y a des gens qui se cultivent via Twitter en s'envoyant sans cesse des informations et en faisant des liens vers des sites internet. Et le problème est toujours en amont de ça. Comment on peut faire en sorte de bien l'utiliser? C'est l'éducation qui nous permet à tous, voir l'éducation proche avec des amis qui vont vous aider, vous accompagner, de voir comment on peut détourner ce type de réseaux sociaux. C'est vrai que Twitter n'a pas du tout été mis en scène dans le cyberpunk. Il y avait des réseaux, il y avait du social, il y avait du virtuel. Mais évidemment, c'est logique, hein, ni Facebook ni Twitter ont été anticipés. Et cet isolement-là, tel quel, a été relativement absent de ce type de roman, ce qui est à souligner en tout cas.
Mais quand même quelque chose, c'est que les médias ne s'imposent, les nouveaux types de médias ne s'imposent que s'ils correspondent à un besoin. On peut critiquer Facebook, Twitter, enfin, bien sûr, moi le premier. Moi je souffre d'un côté un peu aussi par moment, il y a des gens qui effectivement ne sont plus joignables que par Facebook. Bon, c'est embêtant de temps en temps, mais c'est pas le problème. Mais ça correspond quand même à un besoin fondamental. C'est-à-dire que de toute façon, l'outil n'est rien en soi, il nous est pas imposé. Si tout le monde y va, c'est qu'il y a quand même manifestement un besoin de reconnecter du social, ou qu'il y ait peut-être un manque. Le truc qui est particulier avec Facebook, c'est que ça quand même, ça dirige, je veux pas revenir à des anciennes conceptions qui, à mon avis, sont un peu anciennes, comme McLuhan, comme le médium et le message, parce que je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et un truc qui est très intéressant, c'est que le type de relation sociale pour lequel Facebook est conçu, et à partir duquel Facebook est conçu, est un type de relation qui existe dans la société américaine middle class des universités, qui est tout à fait particulière, dans laquelle un francophone se sentirait à la fois sentirait une familiarité, se sentirait extrêmement gêné. Et que là, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant dans la mise en compétition des gens et dans le caractère d'exposition. C'est-à-dire que Facebook est le reflet de la manière dont s'organise la société dans des universités américaines. Donc, dans une certaine classe d'une société tout à fait particulière, hein, qui a une base de protestantisme puritain, qui a des valeurs politiques qui sont exactement inverses à celle de la France. Et là, par contre, il y a quelque chose qui était absolument imprévisible, mais qui est intéressant. Mais là encore, c'est pas l'outil. C'est la manière dont on s'en sert. Et là, on est sur quelque chose de complètement chaotique, parce que dans la mesure où on ne peut absolument pas prévoir de quelle manière il va être détourné ou pas. Il y a un exemple qui m'a frappé. Je travaille avec des étudiants en psycho sur les réseaux sociaux, sur l'effet de la chose. Quand je préparais mes cours pour trouver des documents, je cherchais des études. Plus de 90% des articles que je lisais m'expliquaient que les gens que j'ai devant moi, qui sont des étudiants, je vous assurais que les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas un brin plus bêtes qu'ils n'étaient il y a 15 ans. Si je lisais 90% des articles, on m'expliquait que j'avais devant moi une génération d'abrutis absolument incapables de faire la différence entre leurs amis virtuels et leurs amis réels. Ce qui est complètement débile. Enfin, évidemment qu'ils font la différence. Et dans le même article, on va lire, ils font pas la différence entre les amis réels et les amis virtuels, par contre, ils passent leur temps à discuter avec leurs amis de la vraie vie et du collège. Enfin, et donc il y a un truc quand même quand on critique, c'est que on lit notamment ah ouais mais regardez les adolescents passent leur temps à communiquer avec leurs potes au lieu d'aller dehors. Bah oui, ils sont ados, c'est juste qu'avec Facebook ça se voit, c'est tout. C'est donc il y a quand même aussi dans la critique des réseaux sociaux et le transfert du cyberpunk nous donne envie d'y aller à boulet rouge, genre c'est méchant, mais en fait non, il y a des choses qui sont simplement rendues visibles. Déjà, mais qui était déjà là au départ.
Et juste un point, c'est que ça nous pousse juste à, on le constate, à voir le nombre de détournements, le nombre de façons qu'il y a d'utiliser Facebook, par exemple. Je veux dire, moi j'ai un pseudo, sur Facebook j'ai 109 ans, peut-être 110 bientôt, ça dépend de la date d'anniversaire, je ne sais plus. Il n'y a que les informations qui sont complètement baroques, en fait, purement et simplement. Même chose sur les délires que j'ai fait sur LinkedIn. Alors à un moment donné, j'ai voulu goûter, j'ai voulu voir comment c'était, et je me suis rendu compte qu'un tas de jeunes avaient aussi des pseudos. Un tas de gens utilisent plein d'astuces pour détourner à leur façon les réseaux sociaux. Et là, en l'occurrence, c'est cyberpunk. C'est-à-dire que le cyberpunk, c'est pas dire je refuse la technologie et je vais dans le camp des réactionnaires. C'est de dire je vais m'emparer de la technologie parce que je peux me l'approprier et faire en sorte de pas devenir chèvre avec cette technologie. Voilà. Et c'est ce que font la plupart des gamins. Hein, on pourrait parler du sampling, du détournement, je veux dire. Hein. Gangnam Style, 2,4 milliards de vues. Eh bien, c'est d'abord des millions et des millions de vues de pages de détournement. C'est des avalanches. Il n'y a pas que les chiens. Hein. Il y a des détournements politiques, il y a des détournements. Il y a certaines vidéos de Gangnam Style détournées. Il y en a une qui s'appelle Gandalf Style, par exemple. Et je crois que c'est à peu près 50 millions de vues de Gandalf Style. En fait, avec un grand bonhomme barbu faisant la danse du cheval dans une ville anglaise. Je veux dire, bon, c'est un type de cyberpunk assez drôle et qui montre que on peut quand même détourner tout ça et s'en amuser et que c'est même nécessaire. C'est notre environnement. C'est-à-dire, c'est l'environnement des gamins. Donc, ils s'en emparent parce que c'est l'environnement urbain. Ils se l'approprient, comme les Indiens d'Amérique s'appropriaient les jeunes l'herbe, leur environnement. Et puis, ils le digèrent, ils en font autre chose. C'est ça qui est important, plus que, à mon sens, en tout cas, de vouloir le critiquer en tant que tel dans l'absolu.
Aucune envie de ma part de le critiquer, simplement on attend un petit peu qu'il en sorte quelque chose, qu'une révolte se structure autour de ça. Pour l'instant, on a peut-être vu avec les révolutions en Afrique, on a peut-être vu des choses commencer à passer par les réseaux, mais en France...
Là, il y a débat encore.
Oui, voilà.
C'est les historiens qui trancheront.
Il y a un point qui est quand même... De différence avec l'espèce de confrontation qu'il y avait dans la culture cyberpunk entre les grandes multinationales avec leurs bras armés, parce que c'était quand même pas aussi rose qu'on croit, et notre propension nous en tant que société, hein, pas juste moi en tant qu'individu, mais à utiliser Google, à utiliser Facebook, etc., où on a l'impression que c'est beaucoup plus subtil en fait, et que si Google et Facebook ont un tel poids, c'est aussi parce qu'on utilise ces plateformes, même si elles sont problématiques à différents égards. Donc il y a peut-être le monde est encore plus subtil qu'il ne pouvait l'être dans la confrontation qu'il y avait entre l'individu et les multinationales, peut-être un peu caricatural dans le mouvement cyberpunk. Et ça, c'est vrai que ça pose question, parce que, je pense qu'on est d'accord ici pour dire que la technologie peut être libératoire ou peut par moment nous permettre des nouvelles formes d'expression, mais elle peut aussi être aliénante et on n'est pas forcément à l'aise. Et c'était peut-être plus simple dans la manière dont c'était décrit dans les romans cyberpunk, par exemple, où prenons les armes et allons bastonner ou allons nous révolter. C'est pas ça qui se passe en fait. On a les outils technologiques, mais en même temps ils nous aliènent, en même temps ils nous libèrent.
Mais là je vais parler pour les un peu en tant qu'auteur. Moi j'ai commencé à écrire du cyberpunk à 25 ans et j'avais pas prévu le téléphone portable. Je veux dire, mais je vous assure quoi. On pensait effectivement les dominations des IA, la prise de pouvoir des IA, puis les personnages. Vous pouvez prendre les premiers Carmen McCallum, les premiers Travis, ils n'ont pas de téléphone portable, tout simplement parce que c'était pas dans les soucis de l'époque, et que ça prouve bien qu'on a toujours tort en fait, mais les gens aiment bien quand même quand on a tort.
Le téléphone portable, il y avait quand même le Vitphone de Philip K. Dick, hein, qui est assez présent, et puis dans Star Trek c'est quand même officiellement en fait l'invention même du téléphone. Elle a été prise par un ingénieur en fait, donc de chez Motorola, en fait, voilà, Martin Cooper, qui à partir donc de ce qu'il avait vu dans Star Trek. Voilà. Bon, alors là, on n'est pas tout à fait dans le cyberpunk, mais on est dans le rapport aux technologies et à la science-fiction.
Par contre, il y a un truc vraiment réalisé de Philip K. Dick par Google, c'est Google News. Dans Philip K. Dick, on a les homéopapes, qui sont donc des journaux qui se définissent tout seuls, en fait. En gros, les dépêches s'agrègent d'elles-mêmes. Et il y a notamment dans Ubik, hein, cette scène où il se réveille avec une gueule de bois, comme très souvent dans le début des romans de Dick, et décide d'avoir des infos. Et donc, il demande à son homéopape de lui sortir des informations people, un peu trash. Et il n'a exactement que... Et c'est exactement ce qu'il a. Et le truc qui est intéressant derrière, c'est ce qu'on ignore. C'est-à-dire que... Google News, et là on a un vrai effet sur notre réalité, un effet, c'est que Google News hiérarchise par popularité, par nombre de clics. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a eu des sondages par rapport avec des jeunes Américains, en fait, qui font plus confiance majoritairement à Google News, dont les informations sont hiérarchisées par un algorithme qu'ils ne comprennent pas, hein, et qui lui-même repose simplement sur une popularité, plutôt qu'à un journaliste. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce soit une machine ou la foule qui décide de ce qui est important. Et là, moi, quand je pense à ça, bah, ça m'évoque Platon, qui était contre la démocratie, parce que le peuple, quand il crie, il décide de faire tuer Socrate. Et on a quelque chose de cet ordre-là. Et pour... Il y a un soubassement, il y a une grande chose qui naît avec le cyberpunk, c'est que le cyberpunk n'est pas qu'un mouvement de la science-fiction. Chez Gibson, chez Dick aussi, ça, je suis désolé, je vais sortir deux, trois gros mots, mais ça s'associe aussi à ce qu'on appelle le début de la postmodernité. C'est-à-dire cet âge, quand il est défini par Baudrillard, quand il est défini par dans Simulacre et Simulation, ce qu'explique Baudrillard, c'est qu'on est passé progressivement, les années 80, et ça s'est réalisé avec le numérique, avec Internet, dans le troisième ordre de Simulacre. L'exemple qu'il prend est très simple. N'importe qui aujourd'hui va à New York, a déjà, par les médias, par les récits, une image préexistante de New York. Et il est impossible d'arriver dans Manhattan sans avoir en même temps l'expérience première de ce qu'on est en train de vivre et l'image, ce simulacre de New York qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil dans Matrix parce que les logiciels psychédéliques que vend Neo, en fait, sont cachés dans un faux livre de Simulacre et Simulation de Baudrillard. Et autre chose qui va être dit par d'autres théoriciens du postmodernisme, c'est que la difficulté qui arrive avec la multiplication des sources d'informations et des réseaux d'informations, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à des informations, jamais. Mais qu'il n'a jamais été aussi compliqué de déterminer la vérité ou justement de hiérarchiser, de déterminer ce qui est important. Et que là où on rentre dans quelque chose, donc on était déjà en train d'évoquer, et là où on rentre dans quelque chose où il y a encore tout à deviner, mais on pourrait faire, c'est sur la fragmentation de l'identité dans tous ces objets numériques. Et là, on est à quelque chose qui a trait au cyberpunk, sur des modes beaucoup plus complexes, qui est effectivement, on est... Cette réalité des faits, c'est pas simplement la réalité des grandes histoires des pays, c'est pas simplement la réalité des crises scientifiques, c'est aussi la réalité de sa propre existence. Et quels sont, en fait, de manière... On a un ego, on va dire, ou une personnalité qui est de plus en plus distribuée entre différents médias, qui dépend de choses et de convictions qu'on a, dont on a de plus en plus de mal à découvrir la source. Ce que dit Baudrillard, pour finir, c'est que le simulacre à l'âge de la postmodernité n'est pas là pour cacher la réalité. Il est là pour cacher le fait que la réalité n'existe plus, parce qu'il l'a déjà mangée. Et une des choses, des tendances pessimistes, si on voulait se dire, le cyberpunk est en train de se réaliser de manière extrêmement sournoise, c'est de se dire que la multiplication des avatars, des réseaux sociaux, est en train en fait de manger et de faire disparaître ce qu'on entend au départ par une identité et par une relation sociale. Et là, je vous laisse avec
voilà,
ça.
Voilà, et juste un rebond par rapport à Baudrillard, c'est que ce qu'il disait après, c'est que l'enjeu, donc, notamment pour nous, c'est de réinventer le réel comme fiction. ça devient une guerre des imaginaires entre différents types de fiction, et donc cette réinvention du réel, et là on est vraiment, à mon sens, une des missions les plus belles de la science-fiction, en rapport à ce que tu disais, et qui rejoint tout ce qu'on raconte par rapport aux hackers aussi, et par rapport au Fab Lab et à tout le reste, c'est qu'on réinvente du réel par ces billets-là, que ce soit la science-fiction ou ces gens qui vont hacker le réel.
Il y a juste c'est une question qui m'évoque parce qu'on parle de rébellion, de détournement. Je me demande si finalement, et c'est une question vis-à-vis du cyberpunk, si finalement c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est prévu et par les réseaux sociaux et par les grosses machines.
C'est un des propos, c'est une des thèses de Baudrillard que développe Matrix notamment. Bon, dans Matrix, ils se plantent parce que c'est du deuxième ordre de simulacre, il y a des machines à la réalité, mais c'est pas grave, c'est quand même ça qu'ils essayent de mettre en scène. C'est cette idée que la révolte, le rebelle, le révolutionnaire est une soupape de sécurité prévue par le système qui permet au système de maintenir une illusion de liberté des gens qui le suivent et que de fait, elle sert le système de par sa rébellion même. On a des illustrations géniales dans la meilleure série de SF faite depuis des années à la télévision dans le monde qui est Black Mirror en Angleterre, où on a justement un deuxième épisode qui se passe dans une dystopie très 70s avec des gens qui sont enfermés, qui en gros font du vélo toute la journée pour produire de l'électricité. Ils s'occupent en regardant, en jouant des jeux vidéo, en regardant des chaînes de télé et à un moment, personnage en fait se rebelle, réussit à être diffusé sur les chaînes de télévision et crache sa haine du système avec un éclat de verre sous la gorge et en fait il est récupéré tout de suite. À partir de ce moment-là, il a une chronique toutes les semaines où avec son couteau de verre sous la gorge, il explique et c'est exactement ce propos-là. C'est un peu glaçant, mais quand on voit aujourd'hui la difficulté, si on met ça en ligne avec tout ce qu'on a dit juste avant, quelqu'un qui voudrait changer le monde. C'était beaucoup plus simple de changer le monde, effectivement, dans les années 80. Les camps étaient beaucoup plus... Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile. Ouais.
Vas-y. Non, mais donc, j'ai une question. Où sera la révolution ? Comment se fera-t-elle ?
Alors, oui,
C'est-à-dire que dans tout système, pour l'instant, historiquement, bon, on a vu des gens, des castes prendre le pouvoir, des rois prendre le pouvoir, dominer, des empereurs. Et il y a toujours eu une source de révolution, à un moment. Alors, comment se révolter contre Google ? À part débrancher l'ordinateur, mais ce que personne ne fera, puisque bientôt il faudra effectivement, comme Philippe Cadic l'a dit, payer pour sortir de chez soi.
En fait, tu as plein de sortes de rébellions, par exemple sur Facebook, mais aucune qui ne change Facebook.
Mais surtout, il n'y a pas d'ennemis.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas renverser Facebook.
Facebook peut disparaître. En fait,
c'est purement commercial.
Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le système aujourd'hui, hein, c'est la logique. Baudrillard parlait également de Minority Report, en fait, hein, et de l'anticipation des délits, et de l'idée, effectivement, que l'objectif de tous ces pouvoirs, hein, Eric Schmidt de Google l'a dit très clairement, il veut que l'internet, il dit que l'internet va disparaître et que c'est une bonne nouvelle. Pour lui, c'est une bonne nouvelle parce que de toute façon, tout sera anticipé auparavant. On va anticiper les désirs de chacun. L'objectif du système, c'est que il puisse tout prévoir. Y compris les rébellions. C'est que si la rébellion rentre dans une case, tout va bien. Si la révolution rentre dans une case, il n'y a aucun problème. Des moments qu'on peut proposer les produits et ce qui va avec, ça fonctionne. En revanche, ce qu'il ne supporte pas, c'est de ne pas avoir dans son stock ce qui va lui permettre d'anticiper le désir de monsieur et madame. Et donc d'aller plus vite que ses concurrents et de lui proposer. Donc ça veut dire que la seule solution, c'est effectivement de mettre le chaos dans tout ça. Et il y a aujourd'hui des gens, par exemple, qui par rapport à Google, créent des faux cookies, en fait, ou qui s'échangent les cookies entre eux. En fait, hein. Il y a des pratiques, alors elles sont minoritaires, bien évidemment, qui permettent de mettre ce chaos, d'une certaine façon. Alors c'est pas la révolution, mais c'est une façon, en tout cas, de ne pas se faire mettre... de ne pas se faire recruter et de rester en quelque sorte imprévisible. Et l'enjeu majeur, c'est de rester imprévisible, c'est de mettre du bug dans tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui y travaillent, des philosophes, des penseurs, des gens comme Stigler, des gens, voilà, Alain Damasio serait d'accord, et il le propose aussi. Il y a des tas de gens. L'idée après, c'est comment on construit tout ça, comment on coagule tout ça, effectivement, pour en faire quelque chose de plus que des individus qui s'amusent en échangeant leurs cookies pour foutre le bordel dans la tête des ingénieurs de chez Google.
C'est mon sujet en ce moment dans Carmen McCallum, là, ce que je fais en ce moment. Alors moi, je pars du principe que la révolution, elle va justement arriver par d'autres bouts. C'est-à-dire que on va pouvoir vraiment réfléchir au réseau, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on est dedans. Mais il y a quelque chose de très concret qui va arriver, c'est les eaux qui vont monter. Et là, je ne sais pas si Google anticipera sur le fait qu'on va avoir des catastrophes naturelles qui vont venir peut-être réguler beaucoup plus vite qu'on ne le pense le réseau et la réalité, en fait. Et je ne sais pas si ça, y a des travaux qui sont faits là-dessus, mais moi,
ça m'intéresse bien, c'est-à-dire cette perte aussi de repères dans le réel et dans les, le désastre écologique qui sans militantisme aucun, qui se prépare.
Justement, j'allais rebondir là-dessus sur le, c'est peut-être pas les humains qui peuvent participer, mais les non-humains, voilà. La Terre en premier, et la montée des eaux, c'est une chose, les catastrophes écologiques, tous ces objets technologiques sont basés sur un certain nombre de métaux rares qui sont pas forcément disponibles de manière infinie. Donc, il y a un moment donné, il risque d'y avoir un problème. Et du coup, ça pose la question de, parce que la catastrophe écologique, elle est présente parfois dans le cyberpunk, pas exclusivement, mais qu'est-ce que ça signifie quand justement ce sont les non-humains entre guillemets qui sont partie prenante de ce genre de révolution, et qu'est-ce que ça peut nous dire sur les formes de société qui peuvent évoluer ensuite, avec lequel l'inégalité peut toujours rester, des formes de bricolage, de détournement, parce qu'il y a quand même une forme de résilience à la fois de la technologie mais aussi des humains, et c'est, je pense, de mon point de vue, c'est certainement intéressant de regarder de ce côté-là.
Alors j'ai une anecdote quand même, c'est que j'ai été il y a une vingtaine de jours à l'inauguration, l'arrivée en France de l'Université de la Singularité. L'Université de la Singularité, qui a été créée en 2008, a été créée par Google, et c'est donc une émanation de la Silicon Valley, une université qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, qui en plus a des réseaux assez extraordinaires pour créer des startups. Et il y avait donc Rob Neil, qui était le CEO donc, de l'université, qui était sur un écran sur de belles roulettes, en fait, hein, donc à distance, et il explique à quel point Airbnb, Uber, l'évolution darwinienne, c'est formidable, les technologies exponentielles, c'est merveilleux, etc. La disruption, vous n'en parlez même pas, de toute façon tous vont disparaître, hein. Voilà, vive Darwin, sa vision à lui en plus, hein, parce qu'il y a quelque chose implicite de Darwin. Et puis à un moment donné, il parle de quelques boîtes, il parle de Magic Leap, qui est une boîte de réalité augmentée, et il met en scène en fait des extraterrestres dans des bureaux, et il dégomme les extraterrestres comme si c'était les suppôts de l'économie préhistorique. Et de but en blanc, après avoir les extraterrestres dégommés dans le bureau, il y a un gamin dans une décharge, mais vraiment il n'y a aucune liaison entre l'un et l'autre, et il explique que toutes ces technologies, les technologies de l'exponentiel, les technologies disruptives, vont permettre de résoudre les problèmes de la faim dans le monde, de la pollution, de l'énergie, tout, sans exception. C'est-à-dire le solutionnisme technologique tel que Morozov en parle, c'est-à-dire tout va être résolu par la technologie, plus de politique, plus de social, en fait. C'est ce qu'on appelle du populisme, purement et simplement. C'est-à-dire qu'en gros, on fait disparaître le politique, la dissolution du politique, et pour le coup, c'est d'une sorte d'idéal parfait de vision d'un méchant cyberpunk. Je me dis, mais c'est formidable, quoi. C'est un personnage de roman que j'avais en face de moi, avec tout le monde qui applaudissait, aucun recul par rapport à ce discours de secte, hein. Donc, plus de social. Non, c'est la technologie qui va résoudre la faim dans le monde, qui va tout résoudre, la pollution, le climat. Donc voilà ce que disent des gens proches de chez Google. C'est que, il suffit de mettre encore plus de technologie et il n'y aura plus aucun problème dans le monde. On le sait, quoi. C'est une évidence, non? Pourquoi on l'a pas fait avant?
Sinon, il y a les bouées. Ouais. Et puis aussi, le fait est, comme on disait tout à l'heure, il est beaucoup plus facile d'identifier un ennemi quand il y a. Et une des autres grandes caractéristiques, des choses qui ont changé entre l'avènement du cyberpunk et maintenant, c'est ce qu'on a appelé la fin des grands récits ou la fin des grandes idéologies. Personnellement, je pense que c'est totalement faux. Par contre, on les a beaucoup enfumés. C'est-à-dire qu'on a un discours, on va dire, du monde riche occidental, mais qu'on voit aussi de manière très criante en Chine. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'en fait, on fait de la realpolitik. Génial de mettre la réalité là-dedans. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'économie est une émanation naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un système dont les hommes manipulent les règles à tout moment, pas du tout. C'est l'accrétion en fait des actions économiques de chacun sont un phénomène naturel qui est absurde de vouloir contrôler. Et le fait est qu'il y a une espèce d'enfumage qui consiste à dire que finalement, le politique, la vision, le projet commun sont des formes archaïques qui empêchent l'humain de libérer son potentiel, le potentiel de l'humain revenant toujours à quelque chose d'extrêmement moderne, c'est-à-dire une vision à deux dimensions et mal digérée de Darwin. Et là, peut-être que l'enfumage le plus problématique, il est là. Le problème, c'est qu'OK, si on... Mais il est où l'ennemi ? C'est-à-dire que je veux faire une révolution, très bien. Mais je la fais contre qui ? Quand Anonymous décide d'arriver, d'incarner son Alan Moore, d'incarner son cyberpunk postmoderne en reprenant des codes de Watchmen ou autre, ok, très bien. Il s'oppose à qui ? À qui on s'oppose ? C'est facile de repérer dans des systèmes où on a encore des dictateurs, on a encore des méchants, c'est facile. Détester Poutine, aucun problème. Bachar el-Assad, on n'a pas de mal à le détester. Ok, si maintenant je veux faire une révolution en Occident, Je la fais au nom de qui et je la fais contre quoi ?
Contre soi-même.
Voilà, contre soi-même, contre Google, contre... parce que ça, Google est puissant mais n'a pas de pouvoir.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement nous dans la fiction on est obligé, il est quand même nécessaire de passer par des personnages et donc moi je suis conscient que dans mes scénarios par moment je focalise le problème sur un personnage qui est donc le méchant hein, même si le scénario n'est pas manichéen, on est quand même obligé de passer par des méchants et à mon avis justement on se trompe hein, c'est ce que tu dis est vrai. Aujourd'hui l'ennemi est complètement imperceptible, dématérialisé là pour le coup complètement.
Plus de blanc, plus de noir, juste des zones grises, quoi.
Mais et si je voulais parler dans des termes très années 80, très post-guerre froide, on pourrait dire qu'aujourd'hui, en tout cas chez nous et dans énormément de pays où ces idéologies avaient beaucoup de voix, jamais finalement les notions de lutte des classes marxistes n'ont été aussi déconsidérées dans le discours officiel. Par contre, dans l'état du monde et dans l'augmentation des inégalités, etc., etc., qui passe notamment par tous ces outils et par une marchandisation de à peu près tous les services qu'on a entre les personnes, elle n'a jamais été aussi d'actualité. À part que maintenant, on a beaucoup de mal à la diriger contre un ennemi commun.
On a beaucoup parlé de rébellion, très bien. Ouais, vous êtes tous d'accord pour la révolution ?
Ouais !
Bien, allez.
Il faut qu'elle soit quand même un peu rigolote. Parce ouais. que c'est...
on va pas s'en sortir.
Du coup, nous avons tous des avatars, plus ou moins correspondant plus ou moins à la réalité, correspondant plus ou moins à nos désirs. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Ça, cette envie de mettre des identités virtuelles ou non.
Bah, ça, je pense que ça reflète quand même la pluralité et la diversité humaine, et que c'est pas forcément une nouveauté, même si ça surprend encore certaines personnes. L'humain n'a pas qu'une seule facette, on a des multiples, et du fait, alors là c'est peut-être un effet de la relation à la technologie, chaque contrainte des plateformes différentes permet plus ou moins une influence sur la manière dont on se met en scène. Donc il y a une dimension très sociologique dans tout ça. C'est documenté depuis très longtemps. Et plus on a d'outils, plus on a de manières de se mettre en scène dans des façons qui peuvent être soit originales, singulières pour se différencier du voisin, ou au contraire, par mimétisme, pour ressembler le plus possible à sa tribu, entre guillemets, ou à d'autres personnes de son cercle social. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, quand on a toutes ces espèces d'ambivalence, c'est est-ce que c'est important de réunir ces identités ou pas ? Est-ce que les plateformes nous permettent justement de vivre cette diversité. Hein, au moment où Facebook voulait absolument qu'on utilise le fait de choisir un prénom, un nom, pas toujours avoir un identifiant qui serait différent de ce qu'on est, un pseudo, ça pose des problèmes. J'avais rencontré un Indien qui avait une particularité assez étrange, c'est qu'il avait qu'un prénom, il s'appelait Kinchuk. Il n'avait pas de nom de famille. C'était juste ça, il disait, mais moi, j'ai un problème avec Facebook, ils n'arrêtent pas de me dire, ouais, il faut que tu trouves une... Enfin, en gros, il lui demandait de se trouver un nom, quoi, puisque son nom-prénom ne fonctionnait pas. Donc on est dans juste cette anecdote pour vous montrer que parfois, nos identités, je parle même pas des identités sexuelles dans tout ça, ne correspondent pas forcément à ce que la technique nous permet d'exprimer. Et donc, il y a forcément des détournements, des frustrations, etc., etc. Et avec l'évolution des techniques, je pense que même s'il y a des grands groupes, enfin, qu'il s'agisse de Google, Facebook, etc., on reste dans une pluralité de plateformes qui fait que, malgré tout, il y a des rouages dans le système et qui sont exploités par les individus pour essayer de s'en sortir. Mais jusqu'à quel point ? Quand on parlait de big data tout à l'heure et que tout commence à être lié, il y a des moments où ces frictions sont de plus en plus difficiles. Et quelle est la part d'expression qui est donnée aux utilisateurs et aux utilisatrices dans ces plateformes ? Ça, c'est une question que je trouve passionnante.
Et par rapport aux avatars, il faut bien comprendre qu'on a une multiplicité d'avatars visibles ou invisibles. C'est-à-dire que toutes ces big data, elles fabriquent une ombre de nous-mêmes, une ombre d'informations quelque part, qui plus le temps va avancer, plus elle va sembler être fidèle. L'enjeu majeur par rapport à cette ombre d'informations invisibles qui nous suit en permanence et qui va grossir, grandir, 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 c'est justement qu'on ne la prenne pas pour nous-mêmes. Hein, c'est que, parce que le rêve, c'est bien, et bien évidemment celui-là, qu'on perd toute distance par rapport à notre ombre de données. Bon, après, il y a tous les autres types d'avatars qui sont plus ou moins orientés. Celui des Sims, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il y en a d'autres qu'on se construit nous-mêmes avec plus de gamme de possibles, plus d'imaginaires, plus d'impossibles. Et j'ai tendance à penser que plus il y a d'impossibles, et plus potentiellement, il y a d'espoir pour le réel derrière, et qu'on puisse un peu s'amuser et prendre le recul. Hein, parce que l'enjeu, quelque part, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on veut nous faire perdre la logique de l'interprétation, la prise de distance. Hein. C'est qu'on veut que immédiatement tout nous soit donné sans qu'on puisse prendre le moindre recul. L'enjeu dans tout ça, avec les avatars ou le reste, à mon sens, il est de retrouver ce recul que les technologies nous permettent aussi, bien évidemment, en fait. Hein, c'est le pharmacon dont parle Stigler, c'est-à-dire le meilleur comme le pire, mais avec une puissance qui va en augmentant. Ces technologies, voilà, elles sont de plus en plus puissantes, et ce meilleur comme ce pire, donc, eh ben, peut lui aussi être de plus en plus puissant.
Il y a un truc très intéressant là-dessus, c'est que tout est paradoxal dans l'être humain, hein, évidemment, c'est que on pourrait imaginer qu'Internet, les forums, les réseaux sociaux soient justement une nouvelle forme d'agora, un endroit de renouvellement finalement de la démocratie, en son sens grec, en son sens vraiment premier, de gens qui échangent des idées. Hein, je ne parle pas de démocratie directe ou de fantasme de gens, enfin pas de fantasme, je ne parle pas de ça. On pourrait imaginer effectivement qu'on a cet espace-là sur Internet. La première chose qui s'est imposée dans les règles de fonctionnement des réseaux sociaux, ou de son existence sur Internet, c'est le pseudo, c'est l'avatar. Donc on est exactement à l'inverse dès le début. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même quelque chose qui nous pousse normalement, qui permet de tisser encore plus de liens avec les autres. Mais la logique de se réinventer par un avatar ou de se réinventer est beaucoup plus une logique de tomber en soi-même. Et les premiers, quand on a commencé au début des années 2000, il y a des gens qui écrivaient dans Wired à l'époque, qui étaient vraiment des promoteurs de la nouvelle, de ces nouveaux outils numériques. Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'était pas forcément une idée. Il y a eu les scientifiques évidemment qui s'échangeaient des données, mais quand on a commencé à faire des réseaux sociaux comme ça, l'idée était de mieux se connaître soi à travers ces réseaux. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à double dimension. On va vers les autres en se transformant, on se réinvente à chaque instant. Si je voulais faire un bon mot, on pourrait parler de schizophrénie numérique des outils contemporains. Parce qu'effectivement, on se fragmente. Après, comme j'aime bien les termes rigoureux, la double personnalité n'a rien à voir avec la schizophrénie, donc je ne vais pas aller là. Mais c'est une chose assez intéressante, très prismatique et magnifiquement représentée par Dick dans les Scramble Suits à une certaine époque.
Mais qui pose aussi la question de comprendre cette logique-là et de l'éducation, éventuellement, de voir que certains outils, certaines plateformes sont pensées pour un usage massif et public, mais que c'est pas nécessairement leur usage le plus intéressant, peut-être. C'est là où il y a toute une culture aussi de plateformes plus refermées, de petits groupes. Enfin, c'est pas hasard si les gens migrent sur des petits groupes WhatsApp et sont moins sur des plateformes comme Facebook qui a divulgué tout en public et à quasiment la terre entière, parce que il y a aussi cet apprentissage qui peut se faire chez certaines personnes, qui pourrait nécessiter une éducation chez d'autres, mais un apprentissage que il est peut-être nécessaire de resserrer, d'utiliser ça juste pour soi, pour d'autres, et ça prend du temps en fait, ce genre de choses. On se plaint en ce moment de tout ces haters quoi, sur les plateformes, toute cette haine sur les réseaux sociaux, mais en parallèle, c'est la parole privée et, ou semi-privée dans des petits groupes est de plus en plus importante aussi. Donc il y a peut-être un mouvement conjoint d'apprentissage, de retour de balancier. Peut-être l'excès de haine d'un côté, c'est parce que la bonté ou des discours un peu plus pertinents, collectifs, sont derrière des portes fermées finalement. Et c'est une manière dont aussi la technologie et ses contraintes, donc je sais pas, la manière dont sur Facebook on peut paramétrer qui reçoit tel message ou non, n'est pas forcément simple et nécessite un apprentissage.
Sur l'information, on n'a jamais eu autant d'émissions ou de revues de décodage de l'information, hein, ce qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années.
Non, juste sur l'avatar, le troll, par exemple, bon, c'est peut-être nécessaire. On peut voir les choses en comparant avec la transparence, la volonté de transparence tout le temps, qui est assez fascisante finalement. Donc on a toujours eu dans toute époque besoin du mensonge, besoin du masque.
Et finalement, l'avatar, c'est un masque. C'est un masque virtuel, mais c'est un masque. On sort masqué. On va au bal masqué. On va, voilà, ça se faisait déjà au 15e, au 16e, au 17e siècle. Et c'est aussi une façon de changer son discours, de se réinventer. Mais c'est pas nouveau, ça. Peut-être que c'est une façon de s'opposer à cette volonté permanente et relativement récente de transparence absolue, qui, on le sait tous autour de la table, est une catastrophe aussi annoncée. Donc voilà, moi ça me gêne pas l'avatar, au contraire, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir aller se balader dans des zones sans forcément avoir de compte à rendre.
Il nous reste 4 minutes, puisque vous voulez faire la révolution, vous avez des questions à poser, j'en suis sûr. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos invités? Oui, il y a les mains qui se lèvent là-bas.
J'ai mes cornets qui brûlent, quoi.
Si au moins je pourrais être bronzé.
Ouais, voilà, mettez des UV, faites un truc.
Allez-y.
Du coup, on a quand même pas mal parlé de rébellion pour revenir là-dessus, mais est-ce que, en tant qu'individu, vous personnellement, vous pensez que le changement doit forcément passer par une révolte, une révolution donc violente, ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait se faire comme c'est venu, de façon plus insidieuse, en retournant en fait les outils mis en place contre nous, contre les gens qui les ont créés?
J'aurais deux remarques. Le changement, lequel?
Bah, s'il doit y en avoir un, effectivement.
Non, mais pourquoi? On fait une révolution pour une cause. On fait une révolution parce qu'on estime qu'il y a des choses à changer, parce qu'il y a un ennemi. On n'a pas inventé Google, Facebook contre moi. Le big data qui essaye de me vendre des choses, il essaye quoi? Il essaye de vendre un produit à des gens qui vont... C'est du commerce. Je vais pas dire que moi, là, perso, je vais pas les dire là. Je veux dire, oui, il y a des choses qui me révoltent, il y a des choses... Oui, tout à fait, mais je... J'ai besoin d'une définition pour ça. Le changement contre quoi?
On s'est pas révolté contre le téléphone, oui, il y a 60 ans. Il n'y avait pas de raison.
C'est pour ça, d'ailleurs, que comme on a du mal à imaginer comment se révolter... La Terre va s'en charger, peut-être.
Voilà, vous voulez les révoltes, et ben c'est réglé.
Voilà, en fait, on est l'exemple même du problème que vous venez de citer, en fait. Voilà. Exactement. Donc, vous venez d'avoir une expérimentation en direct, live. Ceux qui prenaient la révolution ne savent pas pourquoi la faire, comment et contre qui. On est mal barré. Hein.
En même temps, on est français, on a quand même une tradition d'aller se révolter pour être ensemble, parce que ça nous fait du bien. Et voilà, et de réfléchir après à ce contre quoi on va se révolter. Non, mais une fois qu'on sera ensemble, on va bien trouver ce qui nous emmène.
Moi, j'avais fait un sous-titre de mon bouquin sur Google, qui s'appelait Google God, qui était le Big Brother n'existe pas, il est partout. En fait, c'est bien là le problème en fait de la révolte, c'est que on sent qu'il y a un besoin d'inventer autre chose, on sent que entre la vague réactionnaire et cette université de la singularité et l'ubérisation, en gros pour simplifier, il y a une voie à trouver, une voie de gauche, une voie de changement, quelque chose qui nous pousserait, donc voilà, quelque chose à faire, à construire, on le sent pertinemment bien, il y a des gens qui agissent, on s'approche d'eux, bon, on peut essayer de construire des voies différentes, hein, d'une certaine manière.
Faisons une page
Facebook. On le fait d'ailleurs.
Faisons une page Facebook pour ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Mademoiselle, devant.
Qu'est-ce qu'il like,
ou bah, monsieur.
Qu'est-ce qu'il like,
bonjour. Est-ce que vous pensez, en fait, pour revenir à un sujet un peu plus SF, et pas la révolution forcément, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'une sorte de création, d'une conscience collective via les réseaux sociaux? Une sorte de conscience unique. Je pense, en fait, à... Pardon. Je pense à un auteur, en fait, japonais, qui s'appelle Motoro Masé, qui a fait un... C'est très kadikien en plus. Bon, c'est un peu raté, mais c'est très kadikien. Un truc qui s'appelle Democracia, où en fait, via un réseau social, il contrôle un robot et c'est la décision collective en fait qui amène les actes d'un robot. Hein.
Il nous reste 60 secondes.
60 secondes pour la création d'une conscience collective à travers.
Bravo.
Merci pour cette question.
Non mais bravo. Ouais, là. Non, ouais. Vraiment formidable.
Ouais, vraiment c'est bien. En fait là, on est sur un thème de SF. On est sur une métaphore extrêmement puissante qui remonte, on va dire qui remonte au début du 20e siècle pour cette idée de noosphère, c'est-à-dire qu'avec l'atmosphère, on aurait une couche de pensée en fait, une autre couche dans laquelle nous baignons qui serait dotée d'informations et qui nous mettrait en contact avec les autres. Ça c'est fait en Occident, on a le Wi-Fi. Non mais de manière très très concrète, hein, je suis actuellement traversé par l'ensemble de la librairie du Congrès. J'ai juste besoin de sortir mon appendice qu'on m'a pas encore greffé pour le sortir. Après, cette idée de cerveau, de conscience collective, etc., je me souviens, et ça m'avait marqué, que quand c'était une des métaphores principales utilisées quand l'Internet, justement, s'est vraiment développé, et qu'on parlait de des gens qui deviendraient, que des citoyens deviendraient les neurones d'un même esprit. C'est encore une pensée centralisante. C'est encore une pensée centralisante. J'arrive à l'analyser en termes de voir ce qu'elle me révèle de la culture au moment où on émet la métaphore. On est encore une espèce de métaphore à la fois centralisante. On imagine qu'il y aurait qu'une conscience collective serait forcément une. Déjà. Et ça, c'est quelque chose que je pense par l'expérience et la pratique du développement des nouveaux médias et qu'une idée qui devient une idée déjà assez ancienne. Et je pense en plus qu'il y avait derrière un côté tout à fait utopique d'imaginer qu'à partir du moment où on allait relier les uns aux autres électriquement, ce qui rend la métaphore du cerveau commun extrêmement puissante, ils allaient travailler ensemble. Mais moi qui ai beaucoup de dissonance cognitive, qui suis très très peu souvent d'accord avec moi-même, je pense que c'est aussi une vision tout à fait idyllique du cerveau. C'est pour moi un moment vraiment de spéculation utopique, mais je sais même pas si c'est positif d'imaginer qu'on soit tous du même cerveau.
Plus, ça n'est intéressant que si quelqu'un n'est pas d'accord.
Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a des communautés de controverses qui se créent aujourd'hui. Il y a des systèmes, en fait, qui sont en train d'être construits par pas mal de gens, qui mettent en valeur la controverse, l'interprétation, quelque part. Hein. Et après, il y a des thématiques comme l'intelligence collective, qui sont des thématiques qui ont beaucoup circulé, en fait, sur les réseaux, dans tous ces mondes-là. Bon, on va dire que, à défaut d'une conscience collective qui serait universelle et mettrait tout le monde d'accord, on peut dire qu'il peut y avoir des communautés, effectivement, se croisant les unes les autres, construisant des logiques d'intelligence collective, se partageant des outils et pouvant peut-être ne pas tous finir chèvres.
Voilà. Ce sera le mot de la fin, ne finissons pas chèvres. Vous allez pouvoir les retrouver tout de suite en dédicace. Merci à vous d'être venus et merci à eux.